Europa.
Nous avons fait les plus de 75 ans, nous avons fait les plus de 70 ans, et donc, de manière ordonnée, nous baissons progressivement l'âge de la vaccination.
Et à partir d'aujourd'hui, la vaccination est donc ouverte à toutes les personnes de plus de 55 ans sans condition. Autre nouveauté, les autotests arrivent en pharmacie. Dans ce journal, Gérald Darmanin qui dénonce des insultes à la France après les tags anti-musulmans sur un centre culturel islamique de Rennes. Donald Trump qui s'en prend à un ténor des Républicains en plein congrès avec les donateurs du parti. Et puis c'était il y a 60 ans, jour pour jour, le cosmonaute Yuri Gagarin effectuait un vol dans l'espace pour la toute première fois.
La page des sports à suivre. Et avec mon invité inattendu, nous allons ce matin sur les traces du prince Philippe en France, sur la côte d'Opale, direction Berck-sur-Mer, où très jeune enfant, le duc d'Édimbourg passait ses vacances. Bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Dès aujourd'hui, toutes les personnes de plus de 55 ans pourront donc se faire vacciner contre le Covid avec le vaccin AstraZeneca d'abord, puis celui de Johnson & Johnson, dont 200 000 doses seront disponibles dès aujourd'hui avec une semaine d'avance. La ministre déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, était l'invitée du grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos hier. Elle souligne une accélération dans la stratégie française de vaccination.
Notre enjeu, c'est de vacciner progressivement, par classe d'âge, le plus rapidement possible. Et donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où on a 14 millions de Français primo-vaccinés, on a reçu 18 millions de doses. Eh bien, on peut se permettre de baisser l'âge de la vaccination. Il faut aller de plus en plus vite. La vaccination est massive. Il faut vacciner matin, midi, soir, samedi, dimanche, jours fériés.
Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'industrie, invitée du grand rendez-vous sur Europe 1 hier.
Autre nouveauté du jour, les tests de dépistage arrivent aujourd'hui en pharmacie, les autotests.
En petite quantité d'abord, mais il y en aura beaucoup plus dans les jours à venir. Ce sont des tests nasaux, mais a priori moins douloureux que les PCR qu'on connaît déjà. Le mode d'emploi avec Victor Dolande.
Les autotests sont destinés à toutes les personnes asymptomatiques de plus de 15 ans. Vous souhaitez retrouver des proches, vous voulez savoir si vous êtes porteur du virus. L'autotest est fait pour ça, plus besoin de vous rendre dans un laboratoire. En pharmacie, on vous vendra un kit avec un écouvillon, un long coton-tige qu'il faut enfoncer à 3 cm dans les narines. Ensuite, vous mélangez dans un petit tube en plastique avec un réactif à l'intérieur. Et 10 à 15 minutes plus tard, le résultat apparaît sur une plaquette. Une barre, c'est négatif. 2 barres, c'est positif. En cas de résultat positif, il faudra impérativement le confirmer en laboratoire. Des tests donc beaucoup plus simples d'utilisation qui permettront aussi de lancer des campagnes de dépistage à plus grande échelle. Ça va être le cas notamment dans les écoles dans les prochaines semaines. Même s'ils sont un peu moins fiables que les tests PCR, plus ces autotests seront répétés dans le temps et plus ils permettront de repérer des cas qui auraient échappé au radar.
Et le prix de ces tests sera encadré jusqu'au 15 mai. Il ne pourra pas dépasser 6 euros.
Et je rappelle que Gilles Bonnefond, qui préside l'Union des syndicats de pharmaciens, sera mon invité tout à l'heure à 6h40. Le ministre de l'Intérieur était à Rennes hier après les inscriptions anti-musulmanes découvertes sur les murs d'un centre culturel islamique ce week-end.
Les croisades reprendront, des appels à Charles Martel aussi, et plusieurs symboles chrétiens trouvés hier matin par plusieurs fidèles lors de la prière. Alors que le jeûne du Ramadan démarre demain en France, Gérald Darmanin a témoigné de la solidarité du gouvernement.
J'ai eu le président de la République tout à l'heure au téléphone qui m'a demandé de dire aux dirigeants de cette association, mais aussi à la ville de Rennes, tout le dégoût que nous inspirent ces inscriptions, qui sont des insultes aux musulmans français et des insultes à la France. Puisque tout lieu de culte, tout lieu d'inspiration religieuse est le bienvenu dans notre pays. Il fait partie de nos libertés les plus fondamentales, celle de croire ou de ne pas croire. Et nous devons la protection à nos concitoyens musulmans, comme nous le devons à nos concitoyens chrétiens ou juifs, bien évidemment.
Et le ministre de l'Intérieur qui a également précisé que la surveillance serait accrue en cette période de fêtes religieuses.
C'est sa première prise de parole depuis l'affaire du restaurant clandestin. Le chef Christophe Leroy a fait une sorte de mea culpa.
Et il est mis en cause pour des soirées organisées au Palais Vivienne, notamment une le 1er avril dernier. Chez nos confrères de BFM Télé, Christophe Leroy reconnaît que cette conférence n'aurait jamais dû avoir lieu au vu du contexte sanitaire.
Aujourd'hui, je vous dis que c'était une erreur de le faire et j'assume. Et si je suis condamné pour cela, je ferai face. C'est une erreur, il n'y a eu rien de grave, j'aurais pas dû le faire. Il ne s'est rien passé au Palais Vivienne. Mais on en fait. Je peux comprendre le ressenti, le palais, le caviar, le champagne, le cuisinier du show business. Et on en fait. Je peux comprendre. C'est très mal perçu. C'est maladroit. Le président a parlé la veille. Il y a eu un coup de... La preuve, d'ailleurs, on a eu des annulations la veille. Beaucoup de gens qui étaient prévus ne sont pas venus. Donc oui, il n'aurait pas fallu le faire. Il aurait fallu annuler cette conférence.
Il aurait fallu annuler cette conférence, dit Christophe Laura. C'est plus un dîner, c'était une conférence, donc.
Autre soirée clandestine. En Côte d'Or, ce week-end, environ 70 personnes étaient rassemblées pour une rave party en pleine forêt. Les gendarmes sont intervenus et ont essuyé des coups de projectiles. Une cinquantaine de verbalisations ont été dressées, notamment pour non-respect du couvre-feu et pour détention de stupéfiants. L'organisateur présumé a été placé en garde à vue. Et puis, près de Toulouse, les gendarmes ont découvert une discothèque clandestine dans un gîte ce week-end. Les deux organisateurs présumés ont été placés en garde à vue. Une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui a été ouverte.
6h06 sur Europe 1. On en vient à la politique. On devrait savoir cette semaine si les élections régionales et départementales sont maintenues au mois de juin. En tout cas, l'approche du scrutin bloque un certain nombre de décisions.
Oui, comme l'augmentation des salaires, des aides à domicile. Le gouvernement a promis une hausse de 13 à 15% à partir du 1er octobre. Ce sont les départements qui financent ces emplois. Et pour l'instant, Jean-Rémy Baudeau, ils font de la résistance.
Oui, et pourtant, on parle de 2 à 300 euros par mois pour des centaines de milliers de professionnels à domicile, infirmières, aides-soignantes, dont les revenus n'ont pas bougé depuis 20 ans. Sauf que cette promesse de hausse de salaire, c'est l'État qui l'a faite. Ça n'est pas sa compétence, mais avec le soutien des partenaires sociaux, l'exécutif a fait voter dans le budget 2021 une rallonge de 200 millions d'euros par année pleine. Le problème, c'est que, en théorie, ces emplois sont financés par les départements. Ils savent que c'est une demande des familles et des électeurs, mais ils rechignent à se faire tordre le bras, décrypte l'entourage de Brigitte Bourguignon, la ministre chargée de l'autonomie. On nous demande encore plus d'argent, mais on finance déjà le RSA qui explose avec la crise, répond un président de département, avant d'ajouter « On ne ferme pas la porte, mais reparlons-en après les élections ». Et voilà ce qui bloque des départements, pas pressés d'entériner des aides décidées par le gouvernement, alors même que la stratégie de l'Élysée est de tenter de faire reconnaître les avancées sociales du quinquennat, la fameuse « jambe gauche » de la Macronie, en plus du régalien et de l'économie. Sur le social, Emmanuel Macron est inaudible, reconnaît un conseiller. C'est pourtant l'une des clés de sa possible réélection en 2022.
Jean-Rémy Baudeau. Après avoir fait l'impasse sur les deux précédentes élections présidentielles, le Parti communiste désigne son candidat pour 2022. 15 ans après Marie-Georges Buffet qui avait obtenu moins de 2% des voix en 2007, c'est Fabien Roussel, secrétaire national du parti, qui en portera les couleurs l'année prochaine.
Aux États-Unis, Donald Trump participait ce week-end à une réunion des Républicains en Floride avec les grands donateurs du parti.
Et l'ancien président continue à parler des fraudes concernant les élections de l'an dernier, et alors qu'on le pensait assagi depuis son bannissement de Twitter, et Donald Trump a refait des siennes, et Alexis Guilleux, il s'en est même pris à plusieurs figures conservatrices.
Oui, très déçu de Mike Pence, son ancien vice-président, et d'après plusieurs invités, Donald Trump a même tenu des propos vulgaires et insultants à l'égard de Mitch McConnell, le chef de l'opposition républicaine au Sénat. Un vrai leader n'aurait jamais accepté les résultats des élections. Bientôt 3 mois après son départ de la Maison-Blanche, l'ancien président n'a toujours pas digéré sa défaite. Scrutin truqué, fraude, Donald Trump assure avoir gagné des États comme la Géorgie et la Pennsylvanie, pourtant remportés par Joe Biden. Alors plusieurs centaines de donateurs, parmi les plus fortunés du Parti républicain, ont fait le déplacement ce week-end à Palm Beach, en Floride. C'est là que Donald Trump reçoit et consulte depuis plusieurs semaines, une manière de montrer qu'il garde toujours la main sur le Parti républicain malgré les divisions. Même si en 4 ans, la formation conservatrice a perdu le contrôle de la Maison-Blanche, du Sénat et de la Chambre des représentants, Donald Trump, lui, reste optimiste. Il prédit une victoire républicaine aux élections de mi-mandat, l'an prochain et à la présidentielle de 2024, sans mentionner ses projets personnels pour les années à venir.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Et puis repartons 60 ans en arrière. Le 12 avril 1961, pour la première fois, l'homme voyageait dans l'espace.
Et cet homme, c'était Youri Gagarin. Aujourd'hui encore, le héros russe de la conquête spatiale est toujours aussi populaire. L'anniversaire de son vol est célébré chaque année partout en Russie avec beaucoup de dévotion. À 27 ans, Gagarin s'envolait de la base de Baïkonour au Kazakhstan pour ce qui allait être, donc lors d'Autriche, le premier vol dans l'espace.
Oui, la base spatiale de Baïkonour est alors une ville secrète, construite à une vitesse record par l'URSS qui voulait devancer les États-Unis dans la conquête spatiale. Gagarin grimpe à l'intérieur de la fusée, dans sa combinaison orange. 2 minutes après le décollage, il annonce « Je vois la Terre, c'est magnifique ». Il passera 108 minutes dans l'espace pour un vol autour de la Terre. Et depuis, tous les gestes de Gagarin sont reproduits comme un rituel par les astronautes qui s'apprêtent à décoller depuis depuis la base russe. Ils regardent le même film soviétique que Gagarine la veille du départ. Ils restent assis sur leur lit pendant une minute parce que, selon la tradition russe, rester debout porte malheur aux voyageurs. Et sur la route qui mène à la fusée, le bus s'arrête à l'endroit précis où Gagarine est descendu pour uriner. Rituel respecté par tous les astronautes aujourd'hui, sans exception, comme l'a fait Thomas Pesquet lors de sa première mission dans l'espace en 2016.
Lors d'Autriche, c'est rituel étonnant.
Bah oui, mais important à raconter. Et qui... Ça fait partie des anecdotes et des coulisses de ces moments d'histoire. C'était Sophie Echen pour le journal 6h10. Elénaïque Monnier pour le journal des sports. Pas de faux pas hein, en foot, en championnat pour Lyon hier soir.
Non, l'OL devait gagner ce match en clôture de la 32e journée pour rester dans la course à la Ligue des Champions. Contrat rempli avec un large succès face à Angers 3-0. À 6 journées de la fin, il ne faut plus perdre aucun point. C'est l'avis en tout cas de l'entraîneur de Lyon, Rudy Garcia.
Il faut absolument qu'on soit en capacité à gagner à Nantes, parce qu'après, bon, il y aura certes évidemment Monaco en coupe, mais il y aura Lille et Monaco en championnat. Donc c'est pour ça qu'il faut, il faut arriver sur ces confrontations-là en ayant fait le plein. Et ce soir, on a su gagner sur, voilà, sur une confrontation très très importante pour nous. Voilà, Monaco a scoré aussi 3 fois aujourd'hui. Paris a gagné 4-1, donc ils ont plus 3 aussi. Voilà, tout, ça peut jouer à un but, on verra bien. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être bon dans tous les domaines et quand on a l'occasion de gagner aussi largement, il faut le faire, c'est ce qu'on a fait ce soir.
Rudy Garcia pour Europe 1 avec Maxime Schoch.
Le PSG lui joue demain son destin européen.
Quart de finale retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes après avoir gagné 3-2 à l'aller. Alors avec ou sans son capitaine, ça on devrait le savoir dans la journée. A priori, le club ne veut prendre aucun risque après sa lésion aux adducteurs et c'est la raison pour laquelle notre consultant Giroud ne croit pas du tout à sa présence sur le terrain demain.
Je crois vraiment qu'il ne sera pas là. Hein. Si j'ai regardé l'endroit où il se touchait avec les gros plans, c'est pas seulement l'adducteur, c'est l'attache de l'adducteur. Et ça, c'est beaucoup plus lent que quand on est dans le corps du muscle. Donc moi, je crois qu'il ne sera pas là. Maintenant, s'il est là, je vais être content hein, parce que c'est leur meilleur joueur, le plus régulier en dehors du gardien de but.
Giroud avec Lionel Rousseau. Retour à l'entraînement ce matin en revanche de Verratti et de Florenzi. Et ce match retour PSG-Bayern, évidemment, demain en direct sur Europe 1.
Alors on parle tennis à présent et on s'arrête sur le mal-être, énième épisode de Benoît Paire.
Oui, qui s'est fait sortir dès le premier tour à Monte Carlo. Alors, Paire qui perd au premier tour, c'est de plus en plus fréquent. Mais ce qu'il est encore plus, c'est qu'il prétend n'en avoir, je cite, rien à cirer. Joint par Corinne Boulouge, Benoît Paire est totalement dépité, voire, il le dit, malheureux sur un court.
Franchement, vraiment rien à cirer. Franchement, ce match, j'habite à 2 heures de route chez mes parents, donc j'ai un double encore, et puis après, je me cache chez moi. Et arriver dans des cimetières pareils, ça me déprime un peu. Donc, ça m'apporte plus rien, tennis, de heureux. Quand on voit les conditions, les trucs, enfin, se retrouver ici, c'est d'une tristesse absolue, alors que d'habitude, c'est le meilleur tournoi du monde. Donc franchement, gagner ou perdre dans des conditions pareilles, franchement, je m'en fous et je vais rentrer chez moi.
Benoît Paire avec Corinne Boulou qui avait déjà fait part hein, de son désarroi sur le sens même de son métier lorsqu'il n'y a pas de public. Du public, il n'y en avait pas non plus à Augusta hier pour ce grand chelem de golf. Mais le Japon a un tout nouveau champion, c'est Hideki Matsuyama, premier japonais à remporter un tournoi du grand chelem et la fameuse veste verte qui va avec.
Lénaïque Monnier, merci. 6h13. Europe 1. Le Royaume-Uni est en deuil. La reine Elisabeth II fait part du grand vide qu'elle ressent. Les obsèques du prince Philippe auront lieu samedi à Windsor. Philippe qui a fait aussi eu une longue histoire avec la France. Et nous sommes ce matin là où enfant il passait ses vacances à Berck-sur-Mer avec mon invité inattendu. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Jean-Max Gonsomme.
Bonjour à vous Jean-Max Gonsomme, vous êtes retraité, vous êtes une figure à Berck-sur-Mer, ancien conseiller municipal, surtout grand connaisseur de l'histoire de la station balnéaire. On va aller grâce à vous ce matin sur les traces du duc d'Édimbourg sur la côte d'Opale. A tout de suite sur Europe 1.
Sur Europe 1.
Mon invité inattendu ce matin à 6h15 est Jean-Marc Gonsomme. Vous êtes donc à Berck-sur-Mer où vous aimez explorer les archives de la ville et nous voyageons ce matin avec vous dans le passé du prince Philippe qui avait ses habitudes sur la côte d'Opale. Qu'est-ce qu'on sait des vacances qu'il passait là-bas dans le Pas-de-Calais ?
Alors on sait que le prince Philippe est venu ici à Berck en vacances. Dans les années 20, 21, 22, 23, il est venu quelques années. Ouais. Alors, on a de lui un souvenir assez vague, parce qu'il n'a pas laissé beaucoup d'articles. Moi, j'ai pris la connaissance de cette histoire-là parce qu'à un moment donné, j'étais chargé de mission par la ville de Berck pour faire l'inventaire du patrimoine. Et c'est en faisant cet inventaire que j'ai découvert que le prince Philippe, qui était d'origine grecque, venait ici à Berck.
Donc par hasard, ça n'était pas très connu à Berck.
C'était pas très connu. Quand même, à partir de son mariage avec la reine d'Angleterre, on a commencé à en parler. Et moi, j'ai redécouvert cette histoire-là d'une façon très curieuse en faisant la connaissance de Mademoiselle Cochet, qui était une dame âgée, qui était une amie de maman et qui avait été sa prof de piano quand il était en séjour ici à Berck.
Ah.
J'ai beaucoup de regrets parce que j'avais 14 ans à l'époque. Ça m'intriguait énormément de savoir que cette dame avait donné des leçons au futur époux de la reine d'Angleterre. C'est à partir de là que j'ai commencé à mener mon enquête et que j'ai découvert le chalet où il avait habité pendant les quelques années où il a séjourné à Berck. Un chalet d'ailleurs qui a disparu au cours des bombardements de juin 1944. C'est un peu les souvenirs qu'on a, plus quelques archives, des photos absolument remarquables du prince Philippe sur la plage de Berck brandissant un drapeau grec.
Ah oui. Et il a quel âge à ce moment-là? Il est très jeune, il est vraiment enfant.
Il a 4-5 ans quand il vient ici à Berck. Oui, on le voit sur la photo. On le voit avec une jeune fille, avec une petite fille brune qui est derrière elle et qui s'appelle Hélène Foufoulis. Alors c'est la fille d'un riche armateur grec. Sa mère, Anne Virades, comptait parmi les intimes de la famille royale grecque. Et tout jeune, Hélène Foufoulis, comme compagnon de jeu, un petit garçon blond, Philippe, neveu du roi de Grèce, en exil à Saint-Cloud. Alors, le prince Philippe venait dans cette famille, ici à Berck, qui avait loué cette ville-là. Et on sait que cette jeune femme, par la suite, est passée en Angleterre, s'est mariée avec un pilote français, d'ailleurs, un pilote de la RAF français. Et le prince Philippe était le parrain de ses enfants, et il a été témoin de son mariage. C'est une histoire assez amusante. Et puis on sait aussi que, on a des photos, on sait que le prince Philippe de Grèce à l'époque, a appris également à nager sur la plage de Berck, dans une piscine qui n'existait pas. Il a nagé sous la garde d'un des surveillants de baignade de l'époque, qui était un général à marin retraité. Et on a des photos de lui en train de prendre son bain avec la petite Hélène d'ailleurs. Il accompagne toujours la petite Hélène.
En train d'apprendre à nager sur la plage, au bord de l'eau, sur la plage de Berck.
C'est assez amusant. Il a appris à jouer de la musique et à nager ici à Berck.
Et on sait qu'à cette époque-là, le prince Philippe, donc, avec sa famille exilée de Grèce, vivait à Saint-Cloud, près de Paris. Donc,
c'est
une grande histoire avec la France. Et d'où le fait qu'on l'entend dans des images d'archives très bien s'exprimer en français.
Et puis, je vous dirais une dernière chose. Ce matin, c'est assez curieux. Et ça, c'est un fil rouge pour Europe. Ce matin, j'ai été revoir un peu l'emplacement du chalet Les Chardons, où habitait le prince. Et puis, figurez-vous que, j'ai été quand même étonné, parce qu'avec le recul du temps, c'est un truc formidable à faire. Il y a une maison un peu plus loin, un chalet qui existe encore, qui s'appelle, d'ailleurs, j'ai la photo, peu importe le nom, et vous savez que ce chalet-là, qui est à 50 mètres de celui où était le prince d'Édimbourg, c'est le chalet de la famille Trogneux. Alors, la famille Trogneux, c'est la famille de Madame Macron.
C'est ça.
Alors,
du Touquet.
On a une magnifique photo. On a une photo absolument magnifique. On voit certainement la famille Trogneux qui est au balcon de sa villa. Et puis, moi, j'imagine déjà, parce que vous savez, je ne suis pas un historien, je suis beaucoup plus un passeur d'histoire, j'imagine déjà que quand le petit prince passait dans la rue, la famille Trogneux le regardait du haut de son balcon.
Comme quoi, voilà, les grandes familles. Merci à vous, merci pour ces histoires et on vous laisse continuer à creuser cette histoire du prince Philippe à Berck-sur-Mer, puisque visiblement, il y a encore quelques points d'interrogation. Merci à vous, Jean-Max Gonsaume.
Bonne journée.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 6h20. À partir d'aujourd'hui, toutes les personnes de plus de 55 ans peuvent se faire vacciner avec l'AstraZeneca, puis avec le vaccin Johnson & Johnson qui arrive à partir de cette semaine en France. 7 religieux, dont 2 Français, ont été enlevés en Haïti la nuit dernière près de Port-au-Prince, probablement par un gang armé actif dans la capitale de l'île. Et puis le triomphe du film Nomadland au BAFTA, les Césars britanniques, avec 4 prix, meilleur film, meilleure réalisation, réalisatrice et meilleure actrice pour Frances McDormand. SLC, salut les copains, ils étaient 46 sur la photo du siècle. C'est l'histoire de cette photo que nous raconte Ombline Roche en musique. La partie sera suivie sur Europe 1. 6h22 sur Europe 1, c'est l'heure d'ouvrir la partition d'Omblin Roche. L'histoire d'une photo ce matin. Nous remontons au 12 avril 1966. Le photographe Jean-Marie Perrier immortalise le visage des plus grandes stars de la chanson française de l'époque. 46 artistes de la génération yéyé. Le cliché devient Omblin la photo du siècle.
Si seulement tu m'avais dit la vérité, nous ne serions pas sur le point de nous quitter.
Cette photo, Sébastien, c'est une commande de Daniel Filipacchi pour fêter l'anniversaire de la parution du magazine Salut les copains. Elle doit servir de poster central du numéro spécial 47 qui va paraître au mois de juin. 4 ans plus tôt, Daniel Filipacchi avait eu envie de créer un petit journal de musique, une déclinaison de son émission devenue culte sur cette antenne.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je la trouve particulièrement jolie, la dernière couverture du numéro de SLC. Il faut dire que c'est Sheila qui est en couverture, alors tout s'explique.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque fois ça me met en joie d'écouter Salut les copains, tous les jours sur Europe numéro 1.
Sheila qui chante Salut les copains sur Europe avec numéro 1. L'émission est le reflet de la jeunesse française des années 60 et prise de liberté.
Oui, des ados qui inventent leur danse, leur façon de s'habiller, leur musique. Ils ressemblent à leurs idoles yéyé. Le petit journal musical de Daniel Filipacchi, le premier magazine pour les jeunes lancés en France, connaît un succès fou.
Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de tout l'homme, et crois-moi plus fou.
Alors retour à l'histoire de cette photo, nous sommes au studio MacMahon, rue des Acacias à Paris, ce 12 avril 1966, il est 16h et ils sont tous là, ou presque.
Il manque Jacques Dutronc, Franck Alabot qui effectue son service militaire, Pétula Clark qui est en retard, les autres sont à l'heure, hein, Claude François, Sheila, Sylvie Vartan et même Serge Gainsbourg, l'air hagard. Il semble se demander pourquoi il est là. Il se trouve qu'il écrit pour les autres et notamment pour France Gall, assise près de lui, 2 rangs plus bas de cette photo de classe iconique, sous les traits d'un adolescent, Michel Berger. Avec France Gall, ils ne se connaissent pas encore.
Réunir autant de vedettes au même endroit, au même moment, on se dit que ça a dû être compliqué, non ?
Eh ben, pas tant que ça, figurez-vous. Du propre aveu de Jean-Marie Perrier, il les connaît tous, à force de les prendre en photo pour le magazine SLC Salut les copains. Ils ont tous le même âge et donc un coup de fil a suffi, pas d'intermédiaire. Pas d'attaché de presse, hein. 3 semaines pour tout organiser. Ils arrivent en train, en taxi, un avion privé est dépêché pour aller chercher Johnny Hallyday,
ah oui,
parce qu'il est loin.
Oui. Et bien oui, il faut absolument qu'il soit là. La star de la photo, finalement, c'est déjà lui.
Jean-Marie Perrier compte bien le mettre en valeur. Il raconte avoir placé tout le monde. Puis au dernier moment, avant de prendre la photo, il demande à Johnny Hallyday, en veste blanche, éclatante, de monter un cran au-dessus de l'échelle. Personne d'autre ne le remarque, personne ne se vexe. Johnny Hallyday, 3 têtes de plus que les autres. C'est normal, après tout, c'est par lui et avec lui que tout a commencé.
Retiens la nuit pour nous deux. Jusqu'à la fin du monde, retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et le fasse oublier la vie. La nuit, avec toi, elle paraît si belle. Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures. Je t'en supplie à l'infini, retiens la nuit. Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse. Ne me demande rien, tu ne comprendrais pas. En découvrant
pour l'amour, je prône la détresse. En croyant au bonheur, la peur entre en mes joies. Revient la nuit pour nous deux, jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et ne fasse oublier la vie. Qu'elle devienne éternelle pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit, oh je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit.
On ne voit que lui sur cette photo de Salut les copains, cette sorte de photo de classe de 1966, Johnny Hallyday qui est derrière en veste blanche, plus grand que les autres.
Oui, voilà. C'est le héros de cette photo du siècle, prise pour le magazine Salut les copains par Jean-Marie Perrier le 12 avril 1966. Alors, on oublie quelques têtes, quelques noms. Francky Jordan, Danny Logan, il y a aussi Jocelyne. Voilà, il serait très difficile aujourd'hui de faire une photo pareille avec autant de vedettes et autant de stars.
Le récit, la partition, c'est Nyon Blin Roche. Merci Nyon Blin. 6h29. Vous, à l'époque, c'était les Trios Tournesol, Laurent Cabrol.
Il y avait un groupe qui s'appelait Trio Tournesol, oui. C'est vrai. On chantait d'ailleurs Retiens la nuit de Charles Aznavour qui a proposé ça. Voilà, bon, alors.
Alors le temps.
Oui, c'est moins drôle. Moins 5 à Charleville, moins 4 à Montluçon, moins 3 à Nevers, moins 2 à Reims. C'est encore des températures négatives, encore des gelées ce matin. Elles seront moins fortes. Je vous le disais la semaine dernière, il y en aura, mais elles seront moins fortes. Je crois que ça se confirme bien. Moins 1 à Caen, à Lille, 0 à Orléans, 1 à Paris, 2 à Bordeaux, 3 à Lyon, 5 à Marseille. Et donc, ces températures du matin vont vraiment s'envoler dans la journée, entre 8 et 14 degrés. C'est quand même fabuleux, mais en même temps, c'est inquiétant parce que les nuits prochaines seront encore aussi froides, sinon plus. Bon, alors, le temps maintenant, et bien simplement, je vous le dirai tout à l'heure, mais c'est une journée globalement sèche, avec tout de même des pluies sur le flanc est à l'heure où nous parlons. Il pleut pas mal sur la région Rhône-Alpes, sur l'Alsace, la Franche-Comté et la Côte d'Azur, pas mal. Enfin, il pleut. Et puis, sur les autres contrées, ce sont des averses. Bref, des averses sur la Bretagne, notamment. Et nous verrons tout à l'heure que, la plupart du temps, quand même, les éclaircies vont s'imposer dans l'après-midi.
La suite, juste avant 7h. Merci, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue à vous tous sur Europe 1, tout de suite votre journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous.
6h30.
Ces actes de haine ne sont pas représentatifs du peuple français. Et j'appelle les musulmans de France à ne pas céder à des provocations d'où qu'elles viennent.
Condamnation unanime à Rennes après la découverte d'inscriptions anti-musulmans sur les murs d'une mosquée. Une nouvelle conséquence inattendue de la crise sanitaire. Non seulement les Français ont épargné, mais leurs comptes courants aussi se sont épaissis. Et puis la Ligue des champions de football, on va déjà se projeter sur le match retour du PSG qui reçoit le Bayern demain au Parc des Princes.
Après le journal, les autotests désormais autorisés à la vente en pharmacie. Massive, va-t-on en trouver partout? À quel prix? Sont-ils faciles à utiliser? Sont-ils fiables? Les réponses du président de l'Union des pharmaciens, Gilles Bonnefond, dans 10 minutes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les fidèles du centre culturel musulman de Rennes, qui abrite une mosquée, ont découvert hier matin des tags peints sur les murs dans la nuit. Des injures à caractère raciste qui mettent en émoi toute la communauté musulmane. Le ramadan commence demain. Le reportage sur place de Charles Guyard.
Forcément, ça nous a choqués. J'étais vraiment indigné.
Des injures ouvertement racistes taguées sur le centre culturel musulman, mais aussi des croix chrétiennes, des appels aux croisades et à Charles Martel, autant de références qui porteraient la signature d'extrémistes catholiques. Une aberration pour ce fidèle, Nadir, alors que le lieu ciblé symbolise justement le brassage interreligieux.
Ici, on fait beaucoup d'échanges avec les communautés chrétiennes, les communautés hébraïques. C'est un endroit de paix.
Une paix bafouée donc, et l'enquête tentera de déterminer par qui. Mais l'archevêque de Rennes, en venant sur place, a tenu à se démarquer de cette radicalité exprimée à coups de peinture, Pierre Dornelas.
Je ne sais pas si c'est une frange de l'Église ou c'est une frange de gens qui se disent chrétiens. Mais ils ne sont pas chrétiens en faisant ça.
Quoi qu'il en soit, cet acte a été condamné au plus haut niveau de l'État. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se déplaçant à Rennes, accompagné de la maire de la ville, Nathalie Appéré.
Ces actes inadmissibles n'ont pas leur place dans la République.
Quant à Mohamed Moussaoui, le président du Conseil français du culte musulman, prône lui l'apaisement.
Ces actes de haine ne sont pas représentatifs du peuple français. Et j'appelle les musulmans de France à ne pas céder à des provocations d'où qu'elles viennent.
Un appel au calme alors que la mosquée de Nantes a, elle, été visée par un incendie volontaire pas plus tard que vendredi. Rennes, Charles Guyard, Europe 1.
Et sachez que tout à l'heure à 8h15, la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, sera l'invitée politique de Sonia Mabrouk. Alors que des gelées ont déjà détruit de nombreux hectares de vignes ou encore d'arbres fruitiers, les exploitants craignent un nouvel épisode de froid cette semaine.
Oui, à l'image de Bernard Farge, vigneron et président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, qui regrette que l'agriculture française ne dispose pas de meilleures méthodes pour éviter les ravages du gel sur le vignoble.
Mardi, risque de gel à nouveau, dans un contexte déjà difficile. Les trésoreries sont exsangues et ce sinistre vient rendre encore plus difficile la situation. Il y a peu d'outils très efficaces pour lutter contre le gel. Depuis quelques jours, nous avons eu des gels à moins 6, moins 8 degrés en Bourgogne et même à Bordeaux dans les graves à moins 6, moins 7 degrés. Donc là, il n'y a rien à faire. La feuille de vigne ne résiste pas à des températures comme celle-ci. Quand on est à moins 2 degrés, on peut arriver ou par des petites éoliennes qui viennent brasser l'air ou par des braseros, des bougies. En tout cas, ce sont des moyens un peu archaïques. Pour réchauffer un peu lorsqu'on est à moins 2, que l'on arrive à passer à 0, ben, la vigne ne gèle plus. Il y a eu un gros gel en 2017, il y a un gros gel en 2021, tout ça semble très près. Le précédent gros gel, c'était 1991. Dans les années 60, dans le Bordelais, 2 années sur 3, il y avait du gel de printemps. Et on le vit aujourd'hui, donc bien sûr, il y a le changement climatique, mais il peut y avoir des cycles aussi qui font qu'il peut y avoir du gel plusieurs fois. En tout cas, ces successions d'événements climatiques brutaux sont difficiles pour les entreprises. Une entreprise n'est pas capable de résister à 2 ans sur 5 ou 2 ans sur 4 avec des sinistres et pas de récolte.
Bernard Farge au micro européen de Stéphane Place.
Ça va peut-être vous étonner en pleine crise, mais il n'y a jamais eu autant d'argent qu'en ce moment sur nos comptes courants.
Oui, alors peut-être pas sur le vôtre, je ne sais pas. En tout cas, c'est une moyenne. Mais tout de même, les experts du secteur interrogés par Emmanuel Duteil pour Europe 1 expliquent que nous avons fait des économies justement en raison de la crise sanitaire.
C'est historique pour les particuliers qui ont eu moins d'occasions de dépenses et puis qui aussi ont une épargne de précaution qui a augmenté pendant cette période.
Marguerite Bérard est la patronne de la banque de détail de BNP Paribas en France. Elle, comme les autres, le constate, nos comptes courants n'ont jamais été aussi remplis qu'en ce moment. À fin décembre, il y avait 469 milliards d'euros sur nos comptes courants. C'est 15% de plus qu'un an plus tôt. Alors l'une des raisons, c'est que certains ont pu mettre de côté les dépenses de loisirs, comme celle des restaurants que l'on ne peut pas faire en ce moment. D'autres ont peur de l'avenir et gardent donc, y compris sur leur compte courant, un peu d'argent. Et ça s'explique par le fait que le livret A et consorts ne rapportent plus beaucoup. Alors on place moins notre argent, selon Philippe Crevel, qui dirige le cercle de l'épargne.
À quoi bon placer son argent s'il rapporte peu? Et donc on le laisse dormir à défaut sur son compte courant, parce qu'on considère que ça n'offre pas beaucoup d'avantages d'aller le mettre ailleurs.
Une manne qui intéresse les pouvoirs publics. Bercy cherche des mesures pour nous inciter à dépenser cet argent. Le but, doper un peu la reprise après la crise du Covid.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1.
Nous sommes lundi et c'est la première semaine des vacances scolaires pour toute la France en même temps.
Oui, période un peu chamboulée par rapport aux dates que vous aviez peut-être prévues, notamment les zones B et C. Alors il y a forcément des parents qui vont se retrouver à devoir travailler parfois à la maison. Comment occuper les enfants? Eh bien, Virginie Riva, elle aussi, s'est posé la question.
Il y a les parents qui auront le temps de faire de la pâte à sel, des activités culinaires, discuter, avoir le luxe de pouvoir mettre les écrans de côté. Ça, c'est pour les parents qui sont en vacances cette semaine, en même temps que leurs enfants. Mais il y a aussi tous ceux qui vont télétravailler avec les enfants à la maison. Stéphane Clerget, pédopsychiatre, a pour eux quelques conseils.
Dans ce cas-là, oui, il y a nécessité d'une organisation. Les plus grands des enfants doivent s'occuper des plus petits. L'idée, c'est vraiment de leur préparer un peu un emploi du temps, un programme qui soit évidemment composé de loisirs, qui ne soit pas uniquement des écrans, des temps de lecture, des temps de jeux de société. Et puis, les inviter aussi à participer aux activités de la maison, de préparer la cuisine, de mettre la table, de ranger aussi la maison.
Pour ceux qui ont pu envoyer leurs enfants chez les grands-parents, là, c'est l'une des meilleures solutions, poursuit Stéphane Clergé. Les grands-parents sont plus disponibles, les enfants y ont un autre rythme, une autre alimentation et d'autres échanges. Ils peuvent notamment en apprendre plus sur la vie de leurs parents.
Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe.
Et nous terminons ce journal par le football. Nous sommes à la veille du choc PSG-Bayern au Parc des Princes. Match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions.
Oui, une équipe parisienne qui a fait le plein de confiance ce week-end, on peut le dire. Victoire en Ligue 1, 4-1 sur la pelouse de Strasbourg. Mais à 24 heures de ce match européen, les supporters parisiens se posent toujours cette question, notamment sur l'effectif qui sera présent demain sur le terrain au Parc. Le capitaine Marquinhos sera-t-il présent? Julien Froment.
Oui, le défenseur Marquinhos et le Paris Saint-Germain se sont lancés dans une véritable course contre la montre. Objectif, tout faire pour que le Brésilien soit sur la pelouse demain soir. Mais l'espoir est infime car le capitaine du PSG souffre d'une lésion à l'adducteur qui devrait l'éloigner en théorie des terrains 3 semaines. Un ultime examen est programmé aujourd'hui, mais Giroud, consultant pour Europe 1, ne croit pas au miracle.
J'ai regardé l'endroit où il se touchait avec les gros plans. C'est pas seulement l'adducteur, c'est l'attache de l'adducteur. Et ça, c'est beaucoup plus lent que quand on est dans le corps du muscle. Donc moi, je crois qu'il sera pas là. Maintenant, s'il est là, je vais être content. Hein. C'est leur meilleur joueur, le plus régulier en dehors du gardien de but.
Justement, Keylor Navas, sorti à la pause à Strasbourg par précaution, devrait pouvoir tenir sa place demain soir dans les buts. Autre bonne nouvelle pour Paris, les tests Covid négatifs des Italiens Marco Verratti et Alessandro Florenzi. Ils postulent donc tous les deux pour le match. Ajoutez à cela la présence de l'Argentin Leandro Paredes, excellent ce week-end à Strasbourg. Et le Paris Saint-Germain peut aborder avec sérénité l'immense défi qui l'attend contre le Bayern.
Ce qui nous promet un beau match et une très belle soirée de football demain, Ligue des Champions, quart de finale retour, PSG-Bayern, 20h-23h30 sur Europe 1, soirée spéciale, le match en direct et en intégralité à 21h.
Merci, c'était le journal de François Geffrier sur Europe 1, il est 6h39.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et j'accueille l'invité du 5-7 en direct, bonjour Gilles Bonnefond.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous présidez l'Union des syndicats de pharmacie d'officine, des pharmacies, où les autotests Covid sont déployés à partir d'aujourd'hui. Est-ce que, déjà, une première question, est-ce que chacun pourra s'en procurer facilement? Est-ce qu'on en trouvera dans toutes les pharmacies?
Non, ça va arriver progressivement. Hein. C'est pas la peine peut-être de se précipiter ce matin. On a eu des informations définitives sur les prix et les conditions de mise à disposition au journal officiel d'hier, donc de dimanche. Donc là, on va pouvoir commander, mais déjà les fournisseurs sont prêts. Hein. Les laboratoires avaient déjà anticipé. Les grossistes répartiteurs sont approvisionnés. Donc ce matin, les pharmaciens vont les commander et les recevoir dans les quelques jours qui arrivent. Certains les ont peut-être déjà reçus, mais en tout cas, ça va monter progressivement. Il n'y a pas d'urgence à avoir des autotests lundi à 8h. Le tout, c'est de les avoir cette semaine.
Mmh. Vous sentez qu'il y a une demande? Est-ce que les patients vous posent des questions, vous les réclament?
Alors, c'est vrai que ces autotests, ça fait pratiquement un mois qu'on en entend parler. La seule chose, c'est qu'il faut bien les utiliser. D'abord, on ne doit pas les utiliser quand on a des symptômes. Quand on a des symptômes ou qu'on est déclaré patient contact, même sans symptômes, il faut absolument faire un test antigénique ou un test PCR en laboratoire. Donc ils sont interdits quand on doit être dans une chaîne de contamination symptomatique ou asymptomatique.
Quand on est cas contact aussi, on évite ces tests-là, on va faire un test PCR ou un antigénique.
Absolument, parce que sinon, on n'a pas d'épidémiologie et on sait que ces tests sont moins fiables que les tests antigéniques ou PCR. Donc il faut faire attention de ne pas remplacer toute la stratégie qui a été mise en place par les pouvoirs publics. D'ailleurs, on est le seul pays où on fait des tests gratuitement. C'est une véritable stratégie qui a été mise en place, qui nous a évité d'être confinés d'ailleurs au mois de février. Et donc cette stratégie ne doit pas être remise en question par les autotests. Alors, à quoi ils vont servir ces autotests? D'abord, les pouvoirs publics vont s'en servir pour faire des dépistages massifs à l'école, pour éviter la circulation du virus dans les établissements et voir comment on arrive à détecter parfois deux fois par semaine les élèves qui pourraient être positifs et derrière faire confirmer tout ça si c'est positif par le laboratoire et s'il y a des contacts parce que les élèves étaient dans la même classe, à ce moment-là, c'est des tests antigéniques.
Mais Gilles Bonnefond, justement, puisque c'est un prélèvement qu'on fait soi-même, est-ce que la manipulation est si facile, et notamment pour des enfants ou pour des adolescents à l'école, dans les collèges ou dans les lycées?
Non, elle va être encadrée par les médecins scolaires et par les infirmières scolaires, parce que il faut enfoncer les couvillons au moins de 3 cm dans le nez et parcourir toute la surface de la muqueuse nasale. Sinon, on ne fait pas un prélèvement correct et donc on aura un faux négatif. Si on fait juste le bout du nez, ça ne sert à rien. Donc il faut que tout ça soit parfaitement compris, que le geste soit appris. Et donc, dans les écoles, ça se fera sous la responsabilité de l'Agence régionale de santé, avec un encadrement médical ou infirmier pour que les gamins... Mais quand vous avez 900 gamins, c'est bien qu'ils fassent l'auto-prélèvement, parce que sinon, on n'arrive pas à faire 900 prélèvements d'un coup dans la matinée, et ce n'est pas possible.
Ouais, ouais, ouais. Et pour autant, vous ne pensez pas que ça peut alimenter une forme de... Est-ce qu'on ne peut pas se rassurer par erreur si on a mal fait le prélèvement et se retrouver avec un test négatif alors même qu'on est positif?
Alors, il y a deux conditions. La première, c'est de ne surtout pas le faire quand on est contact ou quand on est symptomatique. Deuxièmement, c'est d'apprendre le geste, et le pharmacien va être là pour conseiller et apprendre à la personne à faire ce prélèvement.
Le premier, vous le conseillez de le faire devant le pharmacien, par exemple ?
On l'avait proposé, ça n'a pas été voulu. Donc on a des notices qui vont être distribuées avec des tests auprès des patients pour bien leur expliquer ce geste qui est très 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 particulier. En fait, les pouvoirs publics disent que donc il y a deux catégories à la pharmacie. Il va y avoir d'abord les personnes qui travaillent auprès des personnes âgées et handicapées. Celles-là vont avoir des tests, 2 tests par semaine obligatoires à faire, et la fourniture de ces tests sera gratuite pour ces personnes sur présentation de la pièce d'identité et de leur contrat de travail auprès des personnes âgées ou handicapées. Donc cela, ça s'appelle des tests itératifs, il faut les faire plusieurs fois dans la semaine, et dont le prélèvement nasal est un petit peu plus adapté. Ensuite, il y a les personnes qui veulent l'acheter comme ça. Donc là, ce sont plutôt orientés sur des personnes qui vont faire aussi des tests répétitifs dans la semaine, parce qu'ils vont voir une personne à l'hôpital, parce qu'ils vont accompagner une personne de leur famille qui est fragile, et donc ces personnes préfèrent avoir un test négatif pour rencontrer une personne qui peut être exposée à un risque Covid, dont la cible, elle est plutôt là. Sur ce type d'utilisation, et il faut le faire plusieurs fois, 2 fois dans la semaine, c'est ce que recommandent les pouvoirs publics, pour être sûr d'être toujours négatif. Mmh. Et le message qui, pour moi, est le plus important, c'est si vous êtes négatif, donc si vous êtes positif, d'abord vous allez faire un test au laboratoire en PCR, et là vous allez rentrer dans la chaîne
d'information. Si on est positif, il faut aller confirmer avec un PCR en laboratoire. Je vais quand même donner le prix auquel vont être vendus ces tests, prix plafonné par le gouvernement à 6 €, puis ce sera 5,20 € à partir du 5 mai. Vous le voyez comme un outil qui va être généralisé finalement dans notre quotidien, cet autotest, c'est quelque chose qu'on découvre aujourd'hui, mais qui va devenir commun, selon vous ?
Ça va devenir commun à la condition que ce ne soit pas mal utilisé et qu'on ne surinterprète pas le résultat. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est là où il va falloir faire preuve de beaucoup de pédagogie. Les 22 000 pharmaciens vont faire ça. C'est de dire, si c'est négatif, ben, tant mieux pour vous. Donc vous allez pouvoir aller voir la personne fragile. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut lever les gestes barrières. Au contraire, il faut les renforcer parce que l'objectif, c'est de rester négatif jusqu'à la vaccination. Mmh.
Les variants sont tous détectés ?
Oui, les variants sont tous détectés, comme sur les tests antigéniques aujourd'hui. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça.
Gilles Bonnefond, dernière question. C'est le deuxième changement cette semaine. Et là, ça concerne la vaccination que vous pratiquez aussi en pharmacie. Élargissement à tous les plus de 55 ans. Dans les faits, est-ce que c'est parce que vous avez du mal à écouler les doses d'AstraZeneca ? Cette défiance est toujours là ?
Non, c'était prévu. Hein.
Nous, c'est on avancé. Avait
déjà, d'ailleurs. Oui, c'est un petit peu avancé. On avait un petit peu d'ailleurs dit que c'était compliqué pour les personnes, même pour les médecins, de réserver à risque de comorbidité ou pas. Ça faisait un petit peu de difficulté. Là, au moins, c'est clair. De 55 à 70 ans, vous pouvez vous vacciner avec l'AstraZeneca et le Johnson Johnson quand il arrivera. Le Johnson Johnson, pardon, quand il arrivera. Il devrait arriver cette semaine. Et puis, au-dessus de 70 ans, vous pouvez vous faire vacciner avec tous les vaccins qui existent aujourd'hui, les quatre, parce qu'ils sont accessibles aux personnes de plus de 70 ans. Et je pense qu'il faut qu'on accélère la vaccination.
Et donc aujourd'hui, il n'y a plus de soucis sur le AstraZeneca. Vous les écoulez sans aucun problème dans les pharmacies ?
On ne dit pas sans aucun problème, ouais. Parce que bien sûr, les informations qui circulent sur les risques de thrombose ont fait que les patients ont posé beaucoup de questions à leurs médecins, à leurs pharmaciens. Mais bon, c'est 80 cas sur 30 millions de vaccinations. On n'en parle pas pour le Pfizer, mais il y a autant d'effets secondaires sur le Pfizer que sur l'AstraZeneca. Ouais. Mais bon, il y a eu, je dirais, un focus assez important. Ce qui était rassurant dans les études qui ont été menées par l'Agence européenne, c'est qu'il n'y a pas eu une augmentation des cas. Voilà, ces cas, on dit, ça peut être lié au vaccin, puisque la thrombose, ça peut être un effet secondaire, mais ça, tant que ça reste un effet rarissime, il n'y a pas d'alerte sur l'utilisation de ce vaccin qui est efficace et qui permet de j'espère, très rapidement de sortir de cette crise.
Dès aujourd'hui, vaccination ouverte à tous les plus de 55 ans, sans critères de santé désormais. Merci à vous Gilles Bonnefond pour toutes ces précisions ce matin. Je rappelle Merci. Que vous présidez l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
Europe 1.
6h48, l'innovation.
Europe 1, Sébastien Krebs.
7h10 sur Europe 1, 7 religieux catholiques dont 2 français ont été enlevés hier en Haïti près de la capitale Port-au-Prince. La police soupçonne un gang armé, les ravisseurs réclament $1 million de rançon. Le triomphe de la cinéaste chinoise Chloé Zhao à la cérémonie des BAFTA, l'équivalent britannique des Césars. Meilleur film, meilleure réalisation pour Nomadland, meilleure actrice pour Frances McDormand. Et puis en football, Lyon à domicile a battu Angers 3-0 hier soir en clôture de la 32e journée de Ligue 1, l'OL 4e du championnat. Bonjour Anissa Mbida.
Bonjour Sébastien Krebs.
Votre innovation du jour pourrait allier la préservation du paysage et les énergies renouvelables. Il s'agit d'un nouveau type d'éolienne qui fonctionne avec des cerfs-volants. Ça veut dire qu'on ne verra plus de pylônes avec des hélices immenses à l'horizon, mais quoi, des ailes de kitesurf ?
Comme sur les plages, exactement. Sauf qu'au bout, il n'y aura pas de surfeur en train de taquiner les vagues, mais un gros générateur d'électricité. Et c'est une toute nouvelle façon de récupérer l'énergie éolienne. On envoie une aile de kitesurf très haut dans le ciel. On lui fait décrire des huit pour tirer sur un câble avec un maximum de puissance, ce qui fait ensuite tourner une turbine et un générateur. C'est un peu le principe du yo-yo, ouais. Mais à l'envers.
Et tout ça est automatique ?
Oui. Dès qu'il n'y a pas de vent, dès qu'il n'y a plus de vent, le système va faire redescendre l'aile automatiquement. Il va la plier, la ranger. Et quand le vent revient, hop, il la fait redécoller. L'avantage, c'est que ça prend très peu de place au sol. Hein, tout rentre dans un conteneur. Ça fait aussi très peu d'ombre, pas de bruit, pas d'impact sur les oiseaux. Et quand il n'y a pas de vent, et ben on ne voit rien dépasser à l'horizon. Donc c'est tout le contraire des éoliennes à hélices qui, en plus, deviennent de plus en plus grandes. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, parce que pour profiter des vents d'altitude, les vents d'altitude sont les plus puissants et les plus réguliers, et bien des vents qui seront beaucoup plus faciles à aller chercher avec un cerf-volant sans dénaturer le paysage.
Elles fonctionnent déjà, ces éoliennes kitesurf ?
Oui, la technologie vient d'être validée après 2 ans de tests, où justement on voulait vérifier aussi bien le fonctionnement automatique que d'éventuelles nuisances pour les riverains, les avions ou les oiseaux. Et tout s'est bien passé. Et c'est une start-up allemande, Skyl Sails, qui a développé cette technologie. Elle va désormais être industrialisée avec comme objectif de construire des parcs de kitesurf générant plusieurs mégawatts d'électricité. Donc on devrait en réentendre parler.
Voilà, des cerfs-volants géants pour faire de l'électricité à la place des éoliennes. L'innovation du jour, Anissa Mbida, merci. Et nous allons d'abord ce matin rejoindre notre envoyé spécial à Londres. Bonjour Théo Manval.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui fait la une de la presse britannique ?
Eh bien, c'est le retour sur le sol britannique du prince Harry pour les funérailles de son grand-père Philippe. Il a atterri à l'aéroport d'Heathrow, titre le Daily Mail, 1 an après son exil américain, rappelle le Daily Mirror. Le Mirror qui révèle aussi la teneur des derniers échanges entre Philippe et son fils, le prince Charles. Conversation émouvante sur son lit de mort, écrit le tabloïd, et dans laquelle Philippe a demandé à l'héritier de la couronne, je cite, de veiller sur la reine. Le Sun nous détaille, lui, certains aspects de la cérémonie de samedi, détails écolo pour un prince qui fut un pionnier en la matière. Le Land Rover dans lequel son corps sera transporté sera un hybride électrique et son cercueil sera en laine, solide, mais totalement biodégradable. Enfin, alors que les députés vont lui rendre aujourd'hui hommage depuis Westminster, tous les journaux ont un mot pour la reine, laissé avec un grand vide, la cite en première page The Independent et le Times.
Un cercueil en laine biodégradable pour le prince Philippe. Merci à vous. Théo Manval, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. Nous allons en Espagne à présent. Bonjour Henri de la Guérie.
Bonjour Sébastien.
De quoi parlent les médias chez vous ?
Eh bien de la méfiance que provoque le vaccin AstraZeneca depuis que des liens ont été établis avec quelques rares cas de thrombose. La campagne de vaccination elle s'est ralentie depuis quelques jours, explique le journal 20 minutes, car beaucoup de 60-69 ans, les seuls autorisés aujourd'hui en Espagne à se faire vacciner avec AstraZeneca, refusent l'injection. Vendredi, dans certaines régions, la moitié des personnes convoquées ne sont pas venues se faire vacciner, selon El Mundo. Dans la Vanguardia, la ministre de la Santé appelle au calme. Le journal précise que sur les 2,4 millions de doses d'AstraZeneca déjà injectées en Espagne, on a enregistré 5 cas de thrombose. Une seule personne en est décédée. Mais à cause de ce nouveau contretemps, l'Espagne aura bien du mal à tenir ses objectifs et à vacciner 70% de sa population d'ici la fin de l'été.
Henri de Laguerie, en Espagne, pour Europe 1, nous terminons ce tour du monde en Israël avec vous, Clotilde Mravko. Bonjour.
Bonjour Sébastien.
Quel sujet fait les gros titres à Tel Aviv ?
C'est l'attaque d'une installation nucléaire iranienne qui passionne les médias israéliens ce matin. Hier, Téhéran rapporte qu'un mystérieux accident a endommagé l'usine de Natanz pendant la nuit, explique Haaretz. La chaîne de télévision publique, la 11, parle d'une cyberattaque menée par le Mossad, tandis que sa concurrente, la 13, explique que l'incident a été causé par une charge explosive directement placée sur le site. Les dégâts sont importants, affirme son correspondant, et pourraient fortement ralentir le développement du programme nucléaire iranien. Rien ne permet d'affirmer avec certitude qu'Israël est vraiment derrière cette attaque, tempère de son côté le journal en ligne Ynet. Mais ce qui est sûr en revanche, poursuit le journaliste, c'est que les États-Unis n'apprécieront guère cette ingérence israélienne si elle est vérifiée, alors que les négociations ont commencé mardi dernier à Vienne pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien et y réintégrer Washington.
Clotilde Mravko en Israël pour Europe 1, il est 7h05. Europe 1. On l'a donc appris cette nuit, une religieuse et un prêtre français ont été enlevés en Haïti aux côtés de 5 autres religieux catholiques. Enlèvement visiblement crapuleux. Les dernières informations dès le début du journal de 7h. Le 7-9 de Mathieu Béliard à suivre sur Europe 1. Europe 1. 6h58 sur Europe 1. Je vous souhaite une très belle journée. À demain pour le 5-7. Tout de suite, vous êtes avec Mathieu Béliard. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Lundi 12 avril 2021, soyez les bienvenus sur Europe 1. Le monde a changé. On va vous le raconter. Et ce week-end, changement de braquet dans la lutte contre l'épidémie avec la vaccination qui poursuit son accélération. Et cette info qui importe pour nombre d'entre vous, à partir de ce matin, la vaccination est élargie aux plus de 55 ans. Normalement, c'est moins de 60 ans, devait attendre la mi-mai. Vous allez peut-être prendre rendez-vous, si ce n'est déjà fait, dans les heures, dans les jours qui viennent. Et puis aujourd'hui, c'est aussi le vrai lancement des autotests en pharmacie. Ces tests à faire tout seul, vous savez, en confirmant tout positif par un PCR, il faut le souligner. Leur prix est plafonné à 6 euros pendant un mois. Alors comment ça marche ? Est-ce qu'ils sont vraiment moins invasifs dans les narines que le PCR que nous connaissons depuis un an ? C'est quand même un argument qui séduit beaucoup de Français a priori. Sont-ils si rapides ? Nous en avons. Vous allez rester à l'écoute ce matin, le tuto, le mode d'emploi. On va tester les tests dans le studio d'Europe 1, ce sera à 7h30 tout à l'heure. Voilà quelques éléments du programme, il est 6h59 et Laurent Cabrol est avec nous pour la météo. Bonjour Laurent.
Coucou Mathieu et rebonjour à tous. Alors, c'est une journée, ma foi, qui débute par le froid, comme la semaine dernière, mais dans une intensité beaucoup moindre. Hein. Il fait entre moins 5 et plus 5 degrés à l'heure où nous parlons. Il en fait 1 à Paris, il fait moins 1 degré à Lille, moins 3 à Nevers. Dans la journée, les températures vont bien grimper avec l'ensoleillement assez généreux. Entre 8 et 17 degrés. Quand je dis ensoleillement, je mets des nuances tout de même. Sur des régions comme la région Rhône-Alpes, l'Alsace, la Franche-Comté et la Côte d'Azur, nous avons des petites pluies ce matin, mais la tendance est à l'accalmie avec des éclaircies en deuxième partie de journée. Si vous êtes sur le nord Picardie, Champagne, Ardennes, Normandie, en Lorraine, là nous aurons des averses en deuxième partie de journée après le repas, grosso modo. À Paris, ce sera bon, après le goûter, hein, vers 17-18 heures. Et puis, sur des régions comme la Bretagne, le Poitou-Charentes, le Limousin, le Berry, la Bourgogne, l'Alsace, eh bien, nous aurons dans ces contrées un temps plutôt sec et plutôt agréable. Bassin méditerranéen, enfin, vent de nord très fort. Il s'agit de Mistral et Tramontane, 90 à 100 km/h dans le sud-ouest, j'ai oublié, et l'Auvergne. Amélioration au fil des heures. Voilà.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.